C'est lequel le prochain à sortir ?
Le prochain Sandmax, c'est Beg, fin décembre.
Ok.
Le tien, il va pas arriver tout de suite. Hein. Mmh. Déjà, je suis content, j'ai réussi à te choper, c'est tellement dur. C'est bon pour toi, à pouvoir démarrer ?
C'est bon, ouais.
Allez, on y va. Un nouvel épisode différent de d'habitude puisqu'on avait envie de vous faire partager une émission spéciale. Nos musiques de cœur, ou du moins d'un des membres de l'équipe qui est mise à l'honneur. Aujourd'hui, Karim.
Bonjour tout le monde et bonjour Thierry.
Salut à toi mon vieux. Level Max, ou plutôt Sandmax numéro 6, c'est maintenant. Enjoy, c'est Sandmax. Comment ça va Karim après cette nuit apparemment compliquée ?
Ça a été difficile, hein. T'as dû attendre que je descende te chercher. Donc, pour résumer, en gros, couché à 4h du mat. Thierry était censé me rejoindre à midi. À midi, je venais de me lever. Donc voilà, je sais pas si j'ai la voix enrouée. Bon, de base, j'ai la voix assez grave, mais voilà, aujourd'hui, c'est pas facile. J'ai ça, pas encore pris mon café.
On sent que ça pique les cheveux, là. On va peut-être rapidement rappeler aux gens, pour ceux qui nous découvrent éventuellement, le principe de l'émission qui n'est pas comme d'habitude, puisque donc c'est un membre de l'équipe qui est mis à l'honneur pour nous faire découvrir ses musiques préférées. Pendant environ une heure, si tout va bien, ça va dépendre si comment ça va évoluer. On va aussi expliquer que Sandmax arrivera de temps en temps, c'est vraiment quand on a le temps de les enregistrer, de les monter, donc aucune régularité. On peut démarrer carrément, on y va ?
Eh ben c'est parti, on attaque.
Allez, on démarre fort avec du gros gros son, un classique de chez classique sur Amiga Power.
Xenon 2, c'était sur Atari ST et Amiga.
Gros jeu.
Ouais, gros jeu. Et je n'ai eu aucun de ces deux ordinateurs à l'époque. Moi, j'avais un PC. Et le PC à l'époque, c'était la loose. Et j'allais chez certains amis, les fameux potes riches dont on parle souvent. J'avais un pote qui avait un Amiga.
Amiga, c'était la classe, Amiga.
Ouais. C'était vraiment la classe. Et quand t'entends cette musique, mais tu te dis, mais c'est ouf. Tu te dis, mais on pourra jamais faire mieux. C'est comme les musiques sur alors à l'époque, ça devait être le CD devait venir d'arriver, mais tu sais, on avait vraiment l'impression d'écouter de la musique. Ça faisait moins jeu vidéo en fait.
Ouais.
Les sonorités un peu dance et tout, c'était génial.
Les Beat My Brothers, c'est vrai qu'ils avaient une certaine réputation déjà.
Ah, c'est clair.
Ouais. C'était avec ce jeu-là que ça démarrait, je me rappelle.
Ouais, c'est ce jeu-là qui a vraiment lancé, on va dire.
Leur réputation.
Ouais. Je sais pas si à l'époque on parlait pas de buzz, mais. Mais ouais, que ce soit au niveau graphique, ils avaient vraiment leurs pattes, et au niveau des musiques, c'était des tueries à chaque fois.
Shoot'em up, donc ce.
Ouais, un shoot'em up plutôt honnête, des souvenirs que j'ai.
C'est plus la musique qui marque finalement.
Ouais, ouais, ouais. Et c'est cette musique-là en fait, parce que je me souviens d'aucune autre musique, je sais même pas s'il y a d'autres musiques dans ce jeu. Mais et puis ça me ramène à vraiment toute une époque, justement cette scène Amiga, Atari, ça rappelle les Demo Makers, et je me rappelle à l'époque, étant mioche, je regardais beaucoup Micro Kids avec Jean-Michel Blottière.
Ah!
Et à la fin, il passait des extraits de démo, de la scène démo making, et je comprenais pas grand chose au concept. C'était souvent des espèces de trucs 3D un peu abstraits, mais ça faisait rêver. Et puis c'était ce genre de musique, et c'est dans ce genre d'émission qu'on découvrait ces jeux auxquels j'avais très peu souvent accès. Et moi, ce que j'avais chez moi, comme j'ai dit, c'était soit un PC un PC de la loose à l'époque en mode 4 couleurs. Avec des bip bip au niveau sonore, c'était pas du Beethoven, et j'avais ma Master System. Et j'ai quand même eu quelques petits plaisirs sur ma Master System, et je crois que sur le prochain, Sur le prochain, on va passer sur ma petite console de cœur, ma première console de cœur.
D'accord. Donc, qu'est-ce que c'est le prochain, finalement ?
Eh ben, le prochain, c'est Castle of Illusion sur Master System, que j'ai fait aussi sur Mega Drive plus tard quand je l'ai eu.
Qui était quand même vachement mieux que Master System.
C'était beaucoup mieux. Mais celui qui m'a marqué, c'était vraiment la version Master System. C'était ce jeu-là. C'était, je sais pas, je le trouvais super beau. Les musiques étaient enchantresses. Sega avait eu cette façon de traiter l'univers Disney avec la magie qui va avec, mais en rajoutant un côté un peu plus sombre qui peut rappeler Fantasia et voilà, c'était l'enfant, c'était beau, c'était innocent.
Fait un lissage musical après un lissage graphique dans ta tête.
Ouais, c'est ça. C'est dans mes souvenirs, je crois que j'ai fait une HD remasterisation.
HD remasterisation.
Même sonore. Mais il y a quand même l'effet Madeleine de Proust. Après, c'est vrai que la Master System, j'ai l'impression que c'était pas son fort, le chipset sonore. J'ai pas de. À part ce jeu-là et peut-être Sonic sur Master System, j'ai pas d'autres grands souvenirs de musique alors que je l'ai saigné cette console.
Shinobi?
Ouais, Shinobi. Bah plus Alex Kidd m'a beaucoup marqué au niveau des musiques, mais je crois que Inaman a trusté.
non, c'était Alex Kidd, c'est Beg.
C'est Beg. Okay.
Beg qui avait mis ouais.
Mais belle époque quand même. C'était l'époque des goûters à base de tartines de pain avec du beurre et un carré de chocolat, d'un verre de Tang et
donc,
puis.
Pardon. Vas-y, excuse-moi.
Non, bah c'était.
Je me permets parce qu'on. On rappelle le jeu pour ceux qui ne l'auraient pas reconnu quand même, la musique, rapidement.
Ouais, je rappelle, c'est Castle of Illusion sur Master System, qui est donc un jeu Sega qui met en scène Mickey. Oui, c'est que j'ai pas dit tout à l'heure. Oui, donc la star de ce jeu est Mickey Mouse, un jeu de plateforme très réussi. Beaucoup de grands souvenirs. Et pour ceux qui veulent se lancer un peu dans le rétro gaming, je conseille vraiment la version Mega Drive.
Ou Game Gear, parce que Game Gear Master System, graphiquement, je crois que c'était un peu pareil quand même, mais pour de la Game Gear, c'était vraiment top.
Ouais, pour de la Game Gear, c'était vraiment top. Même la version Master System, c'est vraiment un des meilleurs jeux Master System, mais la version Mega Drive, c'était une tuerie. Le seul truc, c'est que j'ai pas de vrais souvenirs des musiques sur Mega Drive. C'est cette musique-là qui m'a marqué.
Eh ben écoute, très bien. Bah tu parles de la Mega Drive, donc on va maintenant basculer sur Mega Drive. Je te cache pas que j'ai eu peur pendant un instant en découvrant tes musiques préférées, parce que ce jeu, c'est également mes musiques préférées dedans, mais ouf, t'as pas choisi la même.
Ah.
Donc, on part nettoyer les rues mal famées.
Street of Rage 2, si je me trompe pas, c'est le premier niveau. Et c'était juste de la tuerie, ce morceau. C'était
le jeu, le morceau, tout.
Ah ouais, non, ouais. Street of Rage 2, c'est un des bijoux de la Mega Drive.
Ouais.
Et mon compositeur Yuzo Koshiro, qui, comme on le disait un peu avant, était un des seuls compositeurs qui avait droit à son nom.
À l'écran start.
Ouais, à l'écran start, quand même, c'était la classe. Ouais. On sait même pas qui a réalisé le jeu, on sait qui a fait la musique.
Pour savoir qui a réalisé le jeu, il fallait finir le jeu.
Ouais.
Alors que là, effectivement, t'as raison, c'était à l'accueil. Ouais.
Mais ouais. C'était classe, et puis ça ramène à l'époque de la dance, mine de rien. Genre musical qui a beaucoup évolué, ouais. Pour le meilleur et surtout pour le pire. Mais on va dire que ça, c'était de la bonne dance. Donc, ouais, Street of Rage 2, toujours dans mon cœur.
Vous le voyez pas, chers éditeurs, mais il vient de taper son cœur avec son poing en même temps. À toi, Street of Rage 2, qui est au ciel, ouais, maintenant.
Toi qui n'es jamais revenu, on ne sait pas pourquoi, Sega.
Salaud, ce Sega.
Je sais pas ce qu'ils ont avec leur licence.
Surtout qu'il y avait eu un remake fait par des fans.
Ouais, des Espagnols, excellent.
Qui était lourd et ils ont été, malheureusement, ils ont dû arrêter. Enfin,
ouais,
ils ont été supprimés, quoi.
Ouais, mais Sega a fait non. Non, nous on sort pas de Street of Rage, personne sort de Street of Rage. On a envie de vous dégoûter, c'est tout.
Bon, on peut peut-être espérer quelque chose, peut-être avec l'avenir, on voit Shenmue 3, ça y est, ouais, enfin ils ont lâché prise.
Donc ouais, mais c'est, quand tu regardes Shenmue 3, c'est plus vraiment Sega, c'est plus Yu Suzuki qui s'est un peu battu. Et bon,
oui, mais à la base, c'est une licence quand même Sega, mais t'as raison, c'est quand même Yu Suzuki qui est en avant, ouais, qui s'est effectivement battu, mais qui sait, peut-être les créateurs de Street of Rage. Sont en cours, j'en sais rien, moi, on sait pas tout.
Mais c'est vrai que c'est assez étonnant, ces gars, ils ont pas mal de licences qu'ils ont vraiment laissé mourir alors qu'elles étaient assez cultes dans les années 80. Je pense à Street of Rage. Il y a eu des jeux comme Golden Axe ou même Altered Beast.
Golden Axe, ils ont tenté des retours des fois.
Ah oui, c'est vrai.
Catastrophique. Ouais. Hein. Je crois qu'il y en a eu un sur 3.6 et PS3 d'ailleurs, qui était horrible.
Ah bon, bah peut-être qu'ils ont raison alors.
Mais oui, il y a eu des foirés. Ouais, je pense aussi Jet Set Radio, finalement, il n'y en a pas eu des masses d'épisodes.
Ouais, Jet Set Radio, il y a eu juste deux épisodes alors que c'était cultissime. On a parlé de Shenmue juste avant, où il a fallu attendre plus de 10 ans pour...
Et il n'est pas encore là.
Ouais, il n'est pas encore là. On verra 2017 ce qu'ils nous annonceront. Mais ouais, non, ils ont vraiment eu énormément de licences marquantes et je sais pas. Je pense qu'à l'ère, ils ont mal géré l'ère 32 bits.
Ouais, ouais.
Ça a été le début de la fin. D'ailleurs, Sonic a zappé cette période pour revenir tapiner un peu... dans les années suivantes.
Oh, tout de suite.
Ouais, il a un peu fait sa putain.
Oh là là, voilà, c'est Karim, forcément. On parle de pute, c'est Karim, c'est normal.
Ça marche plus, je vais faire les JO avec Mario. J'ai plein d'amis tout pourris. Non, Sonic, il m'a déçu ces dernières années quand même.
Ceci dit, on peut pas te donner tort, hein, t'as pas faux. Hein, c'est pas faux. Très bien, bah écoute, on va rester sur cette même console et après avoir nettoyé les rues, et bah maintenant on monte dans son vaisseau et direction l'espace pour sauver la Terre.
Et donc voilà, c'était Thunder Force 4. Et c'était du lourd.
C'était extraordinaire. Ouais. Je rigole parce que bon, c'est comme ça.
Il y a un univers parallèle où je me suis chié dessus.
gros shoot'em up, effectivement, sur Mega Drive, encore une fois.
Ouais. Et je crois que, comme je te le disais, c'est le seul shmup c'est le seul shmup auquel j'ai vraiment joué, parce que je l'ai eu déjà. Et puis c'était un putain de souvenir, ce jeu. C'est un feu d'artifice visuel. Il y avait je sais pas combien d'écrans en parallaxe, des sprites de partout, et cette putain de musique de métalleux sauce japonaise. C'était je sais que sur ce jeu là je transpirais. La première fois que je l'ai fini, j'ai utilisé un cheat code, j'ai utilisé plus de 99 vies.
Ah, quand même.
Ouais. J'ai pas beaucoup pratiqué les shoot'em up et j'étais pas très bon.
Surtout qu'à l'époque, à l'époque ils étaient durs, maintenant ils sont quand même corsés, les shoots de cave et tout, mais à l'époque c'était quand même déjà...
Il y avait déjà un peu ce côté...
Un level quand même.
Ouais. Fallait être concentré, fallait entrer dans la zone et la musique aidait bien à recommencer. Je crois que c'était la musique du premier boss, ça. Donc je ne me rappelle plus, mais les boss c'était toujours immense. Ils avaient 2-3 formes. Tu pensais les avoir battus et revenait le bâtard avec en se transformant et disait non, broker, non. Mais ouais, non, c'était encore une des grandes musiques de
la Mega Drive.
De la Mega Drive, ouais. À l'époque où j'avais la Mega Drive, des fois j'étais jaloux de la Super Nintendo parce que j'avais l'impression que leur chipset sonore était meilleur.
Ah, c'était pas qu'une impression, je crois.
Ouais, non. Mais il y a des compositeurs qui arrivaient à faire des trucs de ouf sur Mega Drive et voilà. Et donc, j'étais un peu moins dégoûté. Un
petit peu l'impression quand même que sur Mega Drive, quand les mecs ils se décarcassaient finalement, ils prenaient le temps de rentrer dans la machine.
Ouais.
Ils sortaient des trucs assez violents, quoi. Mais effectivement, s'ils allaient au truc simpliste, de premier abord, effectivement, la Mega Drive était moins puissante.
Ouais,
en théorie.
Ouais. Il y avait beaucoup de, on va dire, dans les musiques moins marquantes sur Mega Drive, il y avait toujours une impression un peu de prout pour moi. Je sais pas pourquoi, mais j'étais un peu jaloux quand j'écoutais des musiques de mes potes qui avaient la Super Nintendo, des trucs comme Actraiser ou les premiers jeux de l'époque, ou Axelay pour rester dans les shoot'em up. Il y avait un côté, oh putain, il y a quelque chose de doux dans la texture sonore, et sur Mega Drive, ça faisait souvent des proutes. Mais de temps en temps, bah voilà, tu te prenais un Street of Rage ou tu te prenais un Thunder Force et là c'est les autres qui étaient dégoûtés.
Et là tu jubilais, tu savais pourquoi tu avais acheté une Mega Drive.
Exactement, et pas juste parce que j'avais moins d'argent, parce que je le voulais, parce que Sega c'était ma vie.
C'était, je me rappelle plus, c'était vraiment moins cher entre la Super NES.
C'était un petit peu moins cher, ouais, je me rappelle.
C'était de l'ordre de quoi, 1290 francs pour la Super NES et 990 francs pour la Mega Drive.
Ouais, à mon avis c'était de cet ordre-là, et ça a beaucoup joué pour mes parents, parce que je dois avouer que je voulais une Super Nintendo.
Oh, depuis le début que qu'on est dans les émissions, tu nous dis que t'es Monsieur Sega et en fait tu confesses maintenant.
Les années ont passé, je pense que je peux tomber le masque.
C'est moi Mario.
Ouais, voilà, quand j'ai découvert Super Mario World ou même quand j'ai dû comparer ma version de Street Fighter à la version de mon pote, je me suis dit ouais quand même ça me ferait plaisir une petite Super Nintendo.
Très bien, on peut continuer, on peut avancer carrément.
Eh ben c'est parti, on continue.
Allez, on part sur quoi maintenant ?
Je ne me rappelle plus.
Très bien.
Il me semble que là, on va bifurquer sur PC.
Exactement. On va se calmer un petit peu, on arrête les musiques métal, les musiques de pro.
Ouais, voilà. Là, on va passer à une époque. À cette époque-là, j'ai enfin eu un PC qui valait le coup, avec une carte sonore Adlib, je crois, à l'époque. Et donc, on va s'envoler vers le désert d'une planète lointaine où les gens se battent pour l'épice.
En oriental, en fait, là on a un petit peu la Dune, hein.
Bah oui, voilà, Dune, c'était Dune sur PC, à ne pas confondre avec Dune 2, parce que c'est Dune 2 qui a, on va dire, qui a marqué l'histoire, mais ce Dune PC qui était réalisé par Cryo, une équipe française, pour moi ce jeu c'était un voyage, c'était vraiment un voyage. Il y a qu'à écouter la musique, c'est comme on dit, c'est un peu arabisant, il y a des sonorités un peu on a l'impression de voyager, ouais. C'est ce qui m'a marqué. Et ce jeu-là était un jeu super spaced, un espèce de mélange de jeux d'aventure, de jeux de gestion. C'est grâce à ce jeu justement que j'ai découvert Dune, parce que Dune, avant d'être un jeu, avant d'être un film, c'est des livres. Et quand j'ai joué à ce jeu, je connaissais pas les bouquins, je connaissais le film de très loin. Et ce jeu-là m'a vraiment plongé dans cet univers un peu bizarre.
Du coup, tu t'y es intéressé ?
Et je m'y suis intéressé et j'ai lu les bouquins et c'est un bouquin culte pour moi. Et quand je c'est un bouquin que je relis régulièrement. Enfin, bon là, je fais un peu le mytho parce que ça doit faire au moins 3-4 ans que j'ai pas lu. mais la saga Dune.
Tu le regardes sur YouTube, non ? C'est pas ça ?
Oui, je regarde quelqu'un tourner les pages sur YouTube. Non, c'est quand même un bouquin sur lequel je reviens régulièrement. Bon là, ça fait au moins 2-3 ans que je me suis pas remis dedans parce que c'est une longue saga. Et le truc, c'est que quand je lis le bouquin, c'est les personnages du jeu que je revois, c'est ce genre de musique qui trotte dans ma tête et il faut rendre à César ce qui appartient à César. Le compositeur, là, et je l'ai pas noté ce coup-ci, je me suis toujours souvenu de son nom, c'est Stéphane Pic. Je sais qu'il avait beaucoup travaillé avec Cryo à l'époque, Cryo qui faisait des bons jeux à l'époque et qui ensuite se sont mis à faire des jeux un peu éducatifs et beaucoup de merde après. Mais à cette époque-là, c'était vraiment des innovateurs, c'était des gameplays un peu barrés. Bien avant ça, ceux qui avaient fait l'Arche du Captain Blood, et pareil, c'était une espèce de concept.
Avec ce français-là, comment il s'appelle là? Merde, un grand créateur français.
J'ai oublié son nom.
Avec le book et des lunettes.
On voyait beaucoup à la télé, c'était un vrai.
J'ai oublié son nom.
Ambassadeur du jeu vidéo français.
Désolé.
Ouais, voilà, vous aurez le droit de nous insulter. Mais on a oublié son nom. Tant pis. Je sais d'ailleurs, justement, pour revenir au Captain Blood, pareil, les musiques étaient marquantes parce que je crois qu'il y avait des musiques qui étaient composées par Jean-Michel Jarre dans L'Arche du Captain Blood.
Ah ouais. T'en as pas mis dans ton Sandmax?
Non, j'en ai pas mis. C'est juste maintenant, je viens de m'en rappeler, je me suis dit, dommage.
L'occasion peut-être de faire un Sandmax 2, plus tard on verra.
Exactement.
Deuxième saison.
Voilà. Et donc, ouais, Dune. En tout cas, pour ceux qui ont envie d'essayer, ça peut se trouver sur Abandonware, c'est un jeu libre de droit. C'est pour ceux qui aiment bien les expériences autres, qui aiment bien le jeu indé, ça pourrait être un jeu indé d'aujourd'hui. C'est un jeu que je conseille d'une, c'était une tuerie. Comme je dis, c'était un mélange assez improbable, où tu pouvais mourir dans le désert de soif, et en même temps, tu devais gérer c'était mi-wargame, mi-gestion, mi-aventure. J'ai fait que de dire voyage, mais c'était ça, c'était un beau voyage. Bon, et les autres musiques aussi du jeu sont excellentes.
Moi, je te cache pas qu'en écoutant la musique, là, enfin, on l'a écouté, ça me fait penser à la pub Amstrad à l'époque, les mecs dans le désert qui.
Exact, ouais.
qui allaient apporter à l'Amstrad. Ça n'a rien à voir, j'ai vu ça dernièrement, j'avais un vieux reportage sur YouTube, justement, j'ai fait mon carré, mais il y avait ce passage-là.
YouTube, c'est la vie.
Exactement. Allez, qu'est-ce que c'est le prochain titre? Tu t'en rappelles ou c'est
alors est-ce que je
on part
je vais
sur Saturne.
Je vais essayer de deviner. Ah, on part sur Saturne. Alors voilà. Est-ce qu'il s'agit encore d'univers un peu dépaysant mais à base de dragons?
Exactement.
Très bien. Eh ben c'est parti. On va s'envoler encore une fois.
J'aurais pas dit mieux.
Du nom sur Saturne, encore une fois un des grands jeux de la Saturne, et puis ces musiques, enfin vous entendez là, c'est juste magnifique, c'est orchestral, c'est symphonique, comme la Saturne, je considère que c'est une grande console malade qui a eu ses chefs-d'œuvre mais qui avait pas mal de problèmes et un jeu comme Panzer Dragon, ça fait vraiment partie des jeux qui montraient que quand on savait l'utiliser, on pouvait faire de belles choses avec.
Et c'est un peu, je trouve, comme la Mega Drive. Enfin, non, mais dans le sens où si tu prenais le temps de t'intéresser à la machine, de rentrer dans la machine, tu pouvais créer des choses magnifiques. Quoi.
Ouais, non, c'est vrai. Et pourtant, c'était un simple rail shooter, un peu à la Star Fox, ce jeu, mais il te transposait dans un univers vachement.
C'était l'univers, ouais, l'ambiance
ouais,
qui était.
L'ambiance, c'était pas commun, c'était très inspiré des travaux de Moebius, je crois que notamment, il avait fait une illustration.
C'est pas lui qui a fait la jaquette du premier?
Ouais, il avait fait la jaquette du premier. On a souvent prêté le fait d'avoir créé l'univers, mais non, en fait, ça s'inspire beaucoup d'un univers, je crois que c'est Arzak qui l'avait créé, donc c'était l'inspiration première, donc il y a ce côté un peu BD de science-fiction de l'époque de Metal Hurlant, complètement des paysans. C'est, on avait beau contrôler un dragon, c'était pas du tout un dragon classique tel qu'on l'imagine. Au niveau du design, c'était beau et non, c'était vraiment un beau jeu. Et je pense qu'on va enchaîner sur une. J'ai pas pu m'en empêcher. Il a fallu que je mette deux musiques d'affilée. Donc le premier, le premier niveau, c'est juste magnifique.
Très belle musique, clairement.
Ouais.
Envoûtante, enfin, on a vraiment envie de partir à l'aventure là.
Et ouais, non, c'est clair. Et ce qui est marrant, c'est que c'est quand même un jeu où on tire sur des trucs, mais cette musique là, elle est, je sais pas, elle est douce, elle est lancinante. Faut savoir que j'aimais tellement cette musique à l'époque, on n'avait pas internet, j'avais pas moyen de l'enregistrer, donc je jouais au jeu et j'utilisais un enregistreur cassette. Pour enregistrer la musique et ensuite me la passer dans mon Walkman avant de me coucher.
Ah ouais. Ouais. Excellent.
Donc voilà, et vive l'ère moderne, parce que le fait d'avoir pu retrouver cette musique dès que j'ai pu, c'était un vrai bonheur. Donc voilà, encore un des grands jeux de la Saturne, comme on l'a dit, console un peu malade. Contrairement à l'époque Mega Drive où je n'ai pas pu passer sur Super Nintendo. Là, au bout d'un moment, je me suis dit, bon allez, à côté, il se passe quand même des trucs intéressants. Et j'ai fini par prendre une PlayStation. Et je me rends compte qu'il y a un espèce de fil conducteur. Mais je crois qu'on va encore se retrouver dans l'espace, là.
C'est pas faux. Un peu comme Beg, également, était parti dans le même univers. Tu y pars également.
Qui m'a marqué, qui n'a pas laissé de grandes traces dans l'histoire du jeu vidéo, cette licence. Il y a eu deux épisodes. Alors pour résumer, c'était un shooter spatial. On va dire, j'irai pas jusqu'à dire une simulation, parce que c'est pas un shoot 'em up. Contrairement à Thunder Force 4, on est dans son vaisseau ou derrière, mais c'était vraiment un univers à la Star Wars, très influencé par la littérature de space opéra et puis ces musiques, quoi. Alors déjà, on est passé à l'ère 32 bits, donc on est passé à l'ère des vraies orchestrations symphoniques, comme avec Panzer Dragon avant.
Donc ça va mieux.
Ouais, ça va beaucoup mieux. Ça grésille moins. Et c'était beau. Visuellement, c'était un jeu vraiment très beau. Hein. Je trouve que la 3D de la PlayStation a vite vieilli. Mais dans l'espace, il n'y a pas trop de décors à part les étoiles, et juste des vaisseaux à modéliser, des belles explosions, des beaux effets de lumière qui m'avaient marqué à l'époque. Et ben encore une fois, cette musique un peu martiale, on se croirait dans un vrai space opéra au cinéma. C'était une belle époque aussi.
Et ben écoute, je te propose qu'on redescende de l'espace. qu'on reparte pas mal d'années en arrière. Tu mets ta ceinture de cow-boy, ton gun.
Mon chapeau.
Ton chapeau. En plus, t'en mets, toi, au quotidien. Et on part dans le Far West. Ça fait, on est dans le bon, la boîte, le truand là.
Ouais, ouais, avec des potions de magie et des demoiselles à secourir, j'imagine. Enfin, je dis ça, j'ai jamais touché à ce jeu. en fait, c'est juste que l'intro. Alors, faut peut-être citer le jeu, c'est Wild Arms sur PlayStation. Sûrement un grand RPG, j'imagine. Je crois qu'il avait eu de bonnes notes à l'époque dans les magazines. Mais c'est juste cette intro, cette musique. Alors en plus l'intro c'était un vrai dessin animé. Et ce qui fait que cette musique m'a marqué, il faut le dire, c'est je crois les premières années de Game One où il passait beaucoup de clips. Et ben ce truc-là passait en boucle et dès que ça passait, ben je m'arrêtais et je regardais.
Ah oui, je me rappelle. C'est vrai que t'avais des tranches horaires où c'était que des intros de jeux, des cinématiques quoi.
Des cinématiques, des clips mélangés, ouais. Donc voilà, c'était les premières années Game One, on va dire, la période où c'était encore pas mal, ça s'est amélioré après, et puis après ça a été...
Ce n'est
que mon avis, mais ça a été la débandade.
Pareil. Stop, Karim. Mets ta tenue en latex, et on part danser avec Oulala.
Space Channel 5 Part 2. Encore un grand jeu de Sega sur une console qui a au destin funeste. Beaucoup moins malade que ses consoles précédentes, mine de rien, la Dreamcast.
Ah, la Dreamcast, c'était du lourd. Ouais.
La Dreamcast, pas grand chose à lui reprocher. Sega qui apprend enfin de ses erreurs, qui en commet aussi pas mal hein, au niveau timing. Et des jeux à chaque fois super innovants, des jeux de pêche, des jeux fun et un jeu musical. Fantastique qui a eu droit à une suite et c'est cette suite là qui m'intéresse. Space Channel 5, les musiques c'est juste de la tuerie, cette espèce de d'ambiance disco et surtout ne pas oublier que dans ce jeu, dans le premier aussi mais dans ce jeu beaucoup plus, quand même un guest de folie,
Michael.
Et ouais, on se retrouve à jouer avec Michael dans le jeu et y a des vrais morceaux à la Michael dedans et ouais voilà, un grand jeu. Ah bah tiens, ça y est, le chat se manifeste.
Voilà, depuis le temps, il était calme.
Ouais. Donc Space Channel 5, pareil, un jeu qui est ressorti sur PC pour ceux qui veulent, qui n'ont jamais testé.
Ah, il est même sorti en compile sur Xbox. Oui, 360, sur Xbox, il y a vraiment. Sega Recycle, quoi.
Ouais, ouais. Et ça fait partie des jeux. Alors il y avait un truc qui était honteux, je crois, c'est sur la version. Je sais que je l'avais refait sur Xbox 360. Et c'était une adaptation de Flemmard, avec des vidéos mal compressées.
Ah,
c'était non, ils avaient vraiment fait du boulot
de cochon.
Ouais, du boulot de cochon. Mais c'est vraiment un jeu. C'est mon jeu musical favori. Je trouve qu'il y a quelque chose de vu que j'ai pas beaucoup l'occasion de parler de ce jeu, je vais en profiter.
Fais-toi plaisir.
Je trouve qu'un des problèmes des jeux musicaux, c'est que souvent on a les yeux rivés sur l'écran et il se passe plein de trucs et on peut pas vraiment les suivre parce qu'on va essayer de trouver les, on va essayer d'appuyer au bon moment sur les pastilles rouges, vertes, jaunes qui arrivent. Et dans ce jeu-là, en fait, c'est vraiment la musique qui te donne les indications. En gros, le personnage va te dire gauche, droite, et tu refais gauche, droite. Donc tu peux voir tout ce qui se passe, t'as pas besoin de te concentrer sur des pastilles alors qu'il se passe plein de trucs derrière. C'est un truc qui se fait pas assez dans les jeux musicaux, parce que, surtout qu'ils mettent en avant de la danse, des chorégraphies, un univers complètement bariolé entre Austin Powers et Galactica. Enfin, c'était fou comme jeu. C'était fou comme Sega qui dansait qui savait que c'était ces dernières années, qui se permettait toutes les folies et c'était beau.
Et d'ailleurs, si je peux ajouter, on vous renvoie au podcast qu'on a fait sur la Dreamcast à l'époque maintenant.
Exactement.
Pour parler de cette console mythique ô combien appréciée dans l'équipe, quoi. Mm. C'est bon pour Space Channel 5 ?
C'est bon pour Space Channel
5. Parce que là, tu nous as vendu du rêve. Là, enfin, tu es Karim dans l'équipe. Hein, tu es sur un piédestal. Et là, pop. Là, c'est le drame. Karim fait son Kevin. J'ai rien contre Kevin, attention. Mais il fait son Kevin quand même. On écoute. Qu'est-ce qui s'est passé, Karim? À quel moment t'as basculé, t'es passé dans le Kevin?
On a tous un squelette dans le placard, et ben, moi, c'est ça, je dois avouer, j'aime les Call of Duty. Mais alors, attention.
Putain, je suis déçu.
J'aime les campagnes solo des Call of Duty. D'ailleurs, je m'insurge quand les gens disent « Ouais, mais Call of Duty, le solo, ça sert à rien. » Moi, je ne joue qu'au solo. Et non, je reconnais que les deux premiers Modern Warfare, après, c'est critiquable, même si je suis pas un gros détracteur des dernières campagnes solo. Mais Modern Warfare et Modern Warfare 2, je trouve que c'était... le premier Modern Warfare, avant Uncharted 2, avait vraiment lancé cette...
C'était Hollywood.
C'était, ouais, voilà, Hollywood, mais tu joues dedans. C'est pas juste Hollywood pendant la cinématique, c'est Hollywood et c'est toi qui es dedans pendant que tout pète. Et j'ai vraiment adoré ces deux premiers épisodes. Et la musique qu'on vient d'écouter, c'est une scène tragique où ton personnage, je crois que c'est Ghost et Roach, après avoir lutté pendant des minutes stressantes et incessantes à tenir un siège dans une petite cabane pour télécharger des informations cruciales dont je ne sais plus du tout... ce qu'elle représentait, mais
c'était crucial.
Ouais, c'était crucial. C'était un siège. C'était puissant. C'était c'était presque à la hauteur de la fin de la scène de Tchernobyl dans le premier Modern Warfare. Et à la fin de cette scène, trahison, on se fait tuer par notre général. Et cette musique, alors je sais que sur la BO de Modern Warfare, enfin je sais, je viens de regarder sur internet.
Fait ton Ken.
Ouais.
Coucou Ken.
La musique a été, on prête souvent, on dit souvent que la musique a été composée par Hans Zimmer, mais en fait, je crois qu'il a juste fait quelques thèmes, dont le thème principal et l'intro. Et je ne me rappelle plus du nom du compositeur de cette musique-là et des autres musiques. Mais c'est dans la même veine de ce que faisait Hans Zimmer à l'époque, ce qu'il fait toujours, mais c'est vraiment du MediaVenture avec ce mélange d'orchestral et d'électronique qui peut rappeler des films comme The Rock ou USS Alabama, à tous ces films un peu militaires. Et moi, je suis plutôt fan de ça. Je sais qu'il y a beaucoup de détracteurs, mais...
Il faut assumer, il n'y a pas de problème.
Ouais, je suis plutôt fan. Et donc voilà... Call of Duty, moi, j'aime bien, ça va.
Eh ben écoute, allez, on continue ou des choses à rajouter sur Kevin et Call of Duty ?
Non, ça va, on continue.
On part maintenant, on met sa capuche, on se met en haut des immeubles pour sauter dans des bottes de foin.
Donc pour ceux qui connaissent, vous aurez reconnu la musique d'Assassin's Creed 2. Et là, je connais aussi le compositeur, c'est Jasper Kidd, un grand monsieur de la musique de jeux vidéo, qui a fait aussi des très bonnes musiques pour Hitman. Et là, je viens de me dire, ah mais merde, j'aurais peut-être dû mettre aussi certaines musiques de Hitman. Mais bon, pour une prochaine fois. Donc voilà, Assassin's Creed 2, je crois que c'est l'épisode, souvent c'est l'épisode le plus apprécié des fans de la saga. J'adore cette musique et j'adore aussi ce jeu, mais c'est un jeu que je n'ai pas terminé car quelqu'un l'a terminé avant moi. Il s'agit de ma petite Punky Chouquette, ma bien-aimée, qui a squatté ce jeu mais comme une malade.
J'ai une anecdote. Qui fait sauter dans les bottes de foin.
Qui fait sauter dans les bottes de foin. J'ai une anecdote de ouf. C'est à l'époque on était en Chine. Elle commence à jouer. Je sais pas. Elle devait être 19-20 heures. Moi, je sors, je dois aller voir des potes une soirée. Donc, je sors, je vais faire la fête et tout. Je rentre, il doit être 4-5 heures du mat, complètement déchiré, complètement fatigué. Et j'avoue, elle est toujours devant l'écran. Je vais me coucher. Je crois que vers 10-11 heures, elle vient de me rejoindre dans le lit, genre presque morte. En larmes. Non, il y avait eu une coupure de courant.
Oh,
elle avait
merde
dû arrêter de jouer.
Oh.
Je crois qu'elle a joué de 21h à 10h du matin non-stop à Assassin's Creed 2. Donc c'est aussi pour ça que ce jeu m'a marqué. Plus que par l'expérience de jeu elle-même, c'est pour cette anecdote-là que je me rappellerai toujours d'Assassin's Creed 2. Ah putain, j'ai du mal à parler.
Assassin's Creed 2. Ceci dit, belle musique. Hein.
Moi, très belle musique,
j'aime
ouais.
pas la saga parce que, anecdote pour anecdote, je vais en donner une. Parce que bon, finalement, depuis tout à l'heure, tu parles, je te laisse parler. Donc je vais parler un petit peu aussi. À l'époque, j'avais acheté le premier Assassin's Creed. En collector, enfin moi je fais les choses bien comme d'habitude. D'ailleurs à l'époque c'était chez Clad, il travaillait encore en McDonald's, il n'était plus au siège, il était encore en magasin. Et je rentre chez moi avec cette fameuse statuette, c'était Ezio, c'est ça le premier
Le premier c'est Altaïr.
Altaïr, pardon. Et tu avais payé ça 100 balles, je crois. Et en fait, bah, la statuette était vraiment de mauvaise finition, vraiment pourrie. Et surtout, bah, le jeu, premier Assassin's Creed, qui était vraiment magnifique, certes, mais se résumait voilà, à monter en haut des immeubles, sauter dans les bottes de foin et à prier pour essayer de récolter des informations, quand, à se mélanger à la foule, à prier. Là.
Ouais.
Et ça m'avait vraiment saoulé. Et depuis, je n'ai jamais retouché Assassin's Creed, malgré que tout le monde me dise « mais tu devrais faire le 2, le 2 est extraordinaire.
Ouais, » Non, le 2, c'était un vrai open world avec enfin des trucs à faire, en fait.
Parce que vraiment, moi, le premier m'a tellement refroidi que j'ai dit « fuck, bah, d'ailleurs, celui-là, je l'ai revendu, alors je ne vous vendais plus mes jeux, celui-là, je l'avais revendu. » quoi.
Ouais, je sais que c'était à l'époque, je travaillais aussi chez McDonald's. C'est vrai que on avait des tonnes d'Assassin's Creed en nos cases. C'est-à-dire que c'est vrai que les gens se sont beaucoup ennuyés avec. Moi, j'ai quand même une bonne expérience avec parce que je m'étais pris une claque graphique.
Oui. Ah oui, il faisait mal.
Et j'aime bien le jeu. C'est vrai qu'il était super répétitif, mais j'aimais bien finalement me faire mes propres aventures. J'allais provoquer des gens. Mais c'est vrai qu'il y avait quand même un vrai manque de.
De contenu, finalement.
De contenu, de variété.
C'est assez lassant. Ouais.
Après, c'est un jeu important parce que c'est quand même le jeu qui a défini la formule Ubisoft, parce qu'ils ont vraiment leur formule maintenant d'open world.
Oui, oui.
Et
oui.
On va dire que c'est le premier jeu qui a défini leur formule à base de tours à grimper pour dévoiler des parties de la carte. Et ils se perdent un peu d'ailleurs avec cette formule, mais bon, ça c'est un autre débat.
Ils la reprennent un peu dans beaucoup de jeux, quoi, maintenant.
Ouais.
Coucou Far Cry, enfin bon. Très bien, bah, est-ce qu'on peut continuer, avancer ?
Eh ben, on passe à la suivante, j'ai oublié laquelle c'était, donc tu vas me faire une belle intro.
Vous remarquerez que c'est son Sandmax, c'est pas le mien, bien évidemment. Tu nous fais beaucoup de Ken quand même, hein. C'est Ken normalement ça. Allez, on change complètement de style, on s'équipe en arme à feu et en avant. Là, on est bien là.
Ah, là on emboîte là. Alcool, drogue. Et bien sûr, avec moi, je suis obligé de rajouter les putes. Donc, ouais, Hotline Miami 2. Bande son de malade, électro, un peu rétro sur certains morceaux. Ce morceau, c'est pas un des morceaux les plus rétro, mais bande son de fou pour un jeu de fou aussi, mine de rien. Une espèce de
simulateur. Il est marqué, hein.
Ouais. Et j'ai mis du temps à m'y mettre, moi, Hotline Miami. Je dois regarder un peu de. Je regardais le jeu un peu de haut.
Avec mépris.
Ouais, avec mépris, ouais, voilà. C'est encore, voilà, on nous balance du pixel et ça doit réveiller nos souvenirs. Et en fait, dès que j'ai posé mes doigts sur la manette, c'est une drogue ce jeu. C'est vraiment une drogue. Une fois qu'on a essayé, qu'on est mort 16 fois d'affilée, on n'arrive pas à s'arrêter. À chaque fois, on relance une partie. Ça fait vraiment partie des jeux où.
Encore une dernière.
Ouais, allez, une dernière. Ouais, et ça s'arrête pas. Et qu'est-ce que tu meurs dans ce jeu ? C'est le Day and Retry ultime. Quoi. C'est un simulateur où t'apprends que la mort fait partie de la vie.
Et que ça fait pas si mal finalement.
Non, ça fait pas si mal. Après, des fois, ça a beau être du petit pixel. C'est quand même super violent. Ça a l'air de faire mal des fois. Ça tâche. Mais ouais, pareil, encore un conseil d'écouture et de jouure. Non, si vous avez la bande son, vous pouvez vous jeter dessus. Et le jeu aussi, je conseille, pour ceux qui, comme moi, regardaient le jeu de loin, d'essayer. Ça me ramène un peu à... Je dis souvent que je suis quelqu'un qui aime les jeux narratifs. Et d'ailleurs, il y a une trame narrative qui, mine de rien, est un peu... qui a sa petite importance dans le jeu, ce qui m'a surpris. Mais surtout, ça m'a ramené à du vrai gameplay. C'est vraiment le gameplay. Et quand c'est bien fait, bah, ça marche très bien avec moi.
Très bien. On va changer complètement d'univers. Est-ce que tu te rappelles forcément quel est le prochain jeu de quel on va parler, puisque je viens de te le dire juste avant.
Oui. Et je sais qu'on... Alors là, là on était sur PC. On va passer à ma dernière acquisition, qui est la PS4, avec un jeu assez connu, avec un petit héros qui a pas mal de charisme.
Particulièrement dans le dernier, ouais.
Particulièrement dans le dernier. Et pareil, encore une fois, le sens de l'aventure, avec un petit côté crépusculaire. Enfin, on va lancer le morceau et vous allez très vite reconnaître.
Donc c'était Tomb Raider, bien ouais, évidemment ouais. Que non.
Tomb Raider 6.
Donc Uncharted 4, la dernière production Naughty Dog ouais. Avant la prochaine, puisqu'on a appris qu'il y avait Last of Us 2, ouais. Coucou GLaDOS.
Mais a priori, si ils s'en tiennent à ce qu'ils disent, c'était la dernière aventure de Drake.
Et je pense que ce sera pas plus mal par contre.
Ouais, je pense aussi. Et c'est pour ça que j'ai choisi... la musique du 4, parce que le thème il est marquant et j'aurais pu choisir sur l'épisode 2 ou 3, mais je trouve que dans ce thème là on sent le côté c'est la fin, il y a un côté un peu plus sombre que dans les versions précédentes, comme je disais, un petit côté un peu crépusculaire, c'est la fin.
Tu l'as fini?
C'est Drake qui nous dit au revoir. Ouais, j'ai fini.
C'est bon. Tu vas faire les DLC ou pas?
J'attends ça avec impatience.
D'accord.
Ce que j'ai vu au PlayStation Experience, ça m'a... le retour de Chloé et puis même la mise en scène de fou.
Ouais, je suis d'accord.
Et puis je dois dire un truc, c'est justement, on parlait du fait d'avoir fini Uncharted 4, ça fait vraiment partie des jeux qui ont soigné leur fin. Y a des détracteurs, mais moi j'ai adoré la fin, ça boucle la boucle.
Oui.
Et c'est une belle fin, c'est des personnages, c'est des personnages très beaux. Ouais, c'est Naughty Dog.
En un mot, c'est Naughty Dog. Mmh.
J'allais dire un big up, mais non, j'ai pas big upé Elena, mais j'ai beaucoup été marqué par l'humanité du personnage d'Elena, qui mériterait presque d'avoir son jeu.
Ça, en fait, Uncharted 4, on sent la patte des scénaristes de Last of Us.
Druckmann.
Voilà, ouais. J'ai oublié, je cherchais son nom. Mmh. Merci.
Hâte de voir ce qu'il va faire sur The Last of Us 2, même si à ce qui paraît, il a Part 2, ouais. Comme Space Channel 5.
Part 2.
Ouais. Et donc je pense que ça va être grandiose, mais il a plus son partenaire, c'était Neil Druckmann et je me rappelle plus qui était l'autre, et je crois qu'il est en arrêt maladie.
Ah bon?
Ouais. Mais il va se faire aider par une nouvelle scénariste, mais bon, j'ai confiance en Naughty Dog.
Ah mais je crois, attends, GLaDOS en a parlé, c'est pas une scénariste de film à la base,
c'est une scénariste de film, de série qui a travaillé dernièrement sur Westworld.
Ah voilà, c'est ça.
Excellente série qui indirectement traite énormément du jeu vidéo.
Ah, parce que GLaDOS nous bassine les oreilles avec Westworld, tout un tas de séries sur notre conversation en privé. Donc,
Il va falloir qu'un jour je me joigne quand même à votre...
Tu es dans la conversation, tu ne le lis pas, mais tu y es.
Ouais. Mais je suis un vieux, moi, avec, taper des textos, tu vois, j'appelle encore ça des textos, j'ai du mal. on parle de WhatsApp, là.
On continue. Allez, maintenant, comme à chaque Sandmax, c'est mon petit moment, mon petit instant suicide.
C'était donc Virginia, un jeu sur PC. Je sais pas s'il est sorti pour l'instant sur console, mais ouais, petit jeu indépendant, assez important pour moi. Je pense que dans un prochain level max, je vais sûrement revenir sur ce jeu parce que j'ai pas mal de trucs à dire, même s'il a pu me décevoir par certains points, notamment sa fin. Mais c'est musique. La musique joue un rôle super important dans le jeu. Elle est omniprésente, parfois peut-être même un peu trop. Mais je tiens à saluer le compositeur qui s'appelle, que je regarde ma fiche, Lyndon Holland. Je crois que c'est un jeune, il a moins de la trentaine. Il a travaillé pour le cinéma, mais bon, je dis certainement pas mal de conneries là. Au moins son nom, c'est le bon. Jeu fait par une équipe anglaise et. Ouais, c'est quand même un jeu. C'est pas un jeu que je vais forcément conseiller aux gens parce que c'est assez expérimental. Mais c'est un jeu qui, pour moi, sera important pour la suite des jeux narratifs. Et voilà, les jeux narratifs, c'est mon dada, c'est ma bataille, c'est mon fils, ma bataille.
D'accord.
Donc non, voilà. Ouais, Virginia, Lyndon Holland. La musique qui passe là, la musique qui passe. C'est un passage assez un des passages les plus réussis du jeu. Je vais pas le spoiler, mais en gros, en quelques minutes, on a tout l'aperçu de la vie d'un personnage, et c'est beau. Voilà.
Très bien. Eh bien, écoute, Karim, on va finir par quelle musique pour clôturer, pardon, ton Sandmax à toi.
Alors, c'est une musique tirée d'un jeu à la base iOS qui s'appelle Sword and Sorcery, un point and click assez conceptuel, j'utilise beaucoup ce mot conceptuel. Un petit point and click avec un univers, c'est du pixel art, avec du pixel très marqué mais très très beau. Un jeu assez étrange qui se passe dans un univers heroic fantasy mais avec des digressions très pop et très moderne. Et bien sûr, vu que là on est là pour parler de musique, une musique composée par Jim Guthrie. Dans l'extrait qui va passer et qui va conclure cet épisode, m'a fait vivre un vrai moment, un moment magique. Parce qu'il faut savoir que je l'ai fait sur tablette. Et dans la musique que vous allez entendre, on a la possibilité, lorsque l'on joue, on est face à un homme avec une guitare qui joue le morceau qui va suivre. Et nous, avec notre tablette ou notre téléphone, on peut rajouter quelques notes et on se retrouve pendant des minutes à faire un duo avec un personnage virtuel, et c'était un moment virtuel et virtuose.
Très bien, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Twitter maintenant, parce que c'est maintenant tu es grand, tu le dis.
Alors,
regarde son Twitter pour donner son Twitter.
Je crois que j'ai mis mon nom complet. Je crois que ça doit être Karim Saïd Ibrahim.
Bon, ça peut changer pour plus tard, là.
Ouais, ouais. Alors, je vais le changer. Je vais le changer en Chocochox. Chocochox.
Très bien. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous le faire savoir sur Twitter, puisque nous avons un Twitter, à savoir _levelmax_. Suivez-moi également sur Twitter, Terry_level_max. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Merci à ceux qui ne nous ont pas écoutés également. On espère que vous avez passé un bon moment avec nous et que vous avez apprécié les musiques de Karim. Je vous rappelle que nous avons une page Facebook, les podcasts de Level Max, et que nous sommes disponibles sur SoundCloud, iTunes et R10. N'hésitez pas à donner votre tour, à vous abonner, partager notre page, ou encore partagez notre podcast. Je vous dis pas au mois prochain, mais plutôt à un prochain Sandmax. Salut !
Salut !